Romains au chapitre 12. En fait, moi aussi, il y a quelque chose. Moi aussi, je vous le dis par cœur. Parce que j'ai mangé un chocolat, mais il est fait donner, là, mais juste pour le plaisir. Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dis-tu?
Oui.
Good. Amen. Fait que ben ça, c'était notre verset de départ. Et vous savez, on va parler aujourd'hui de forteresse. Et vous allez voir pourquoi je amène ce verset-là dans le contexte des forteresses. Souvent, quand on parle de forteresse, quel verset qu'on amène quand on dit le mot forteresse? Dans 2 Corinthiens 10, 4 et 5. Puis là, je vous le lis, là. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et tout autant qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc, les forteresses, c'est des façons de penser qui ne sont pas en harmonie avec la parole de Dieu. Ainsi, notre croissance spirituelle et dans la maturité, dans la liberté qui est en Christ, dépend directement de la réalité dans notre vie, du renouvellement de notre intelligence. Parce que, avez-vous remarqué que le verset 2, Romains 12, 2, est par rapport au discernement? Discerner que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Et être renouvelé par l'intelligence, c'est se rendre compte dans la réalité de notre vie, de nos choix, à la lumière de la parole de Dieu, que la parole, la volonté de Dieu, c'est tout le temps bon. Mais on ne pense pas de même par défaut. Par défaut, on est ennemi de Dieu dans nos pensées. Et là, je parle, je veux dire, ça c'est notre nature adamique, là, quand on est sauvé, il y a ce processus-là, mais il est commencé puis il est entamé, mais il n'est pas parfait. Mais plus on grandit dans le Seigneur et dans le discernement spirituel, plus on se rend compte que effectivement, la volonté de Dieu, là, c'est tout le temps bon, agréable et parfait. Et, OK, il y a un fait indéniable. Si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. La nouvelle naissance, elle a changé toutes choses dans notre vie dès le moment de notre conversion. Mais la transformation, là, c'est pas faite, là, boum, jour au lendemain, on a tout compris, puis on est devenu, là, parfait comme ça. Non, on a une constante croissance dans le Seigneur. Le mot ici pour transformer, c'est le mot métamorphose. Donc, c'est quelque chose de radical, comme une chenille qui devient un papillon. Mais on est comme dit dans le processus que sort du cocon, puis là, déploie les ailes. C'est ça, ici, l'image qui est employée pour parler de cette transformation. C'est radical, c'est dramatique, mais ça se fait pas comme ça. C'est progressif. Maintenant, qu'est-ce que tout ça peut signifier pour nous après-midi? Rappelez-vous que la question des pensées, c'est là qu'est le champ de bataille du chrétien. Parce que c'est là qu'on a développé avec le temps un système complet et complexe de croyances qui sont devenues des choses par défaut. Tu sais, avec les ordinateurs, là, quand tu fais rien et tu achètes ton ordi, il y a un setting par défaut. Là, tu peux changer d'affaires toi-même, là, mais par défaut, le fondement de nos pensées, de notre intelligence n'est pas le bon. C'est ça la conséquence de la chute. Et en Jésus-Christ, Dieu renouvelle ça, transforme ça. Et pendant toute notre vie, on a cultivé ce système de croyances-là qui est façonné. Là, puis là, il y a un peu de révision par rapport à ce qu'on a vu avant, avec toute la question de la vision du monde. Je ne sais pas si vous vous rappelez, là, mais notre croyance a été façonnée par notre chair, par le monde et par le diable lui-même, avec sa tromperie, ses mensonges. Et là, on a absorbé ça à l'intérieur de nous, au point où ces mensonges, ces demi-vérités, nous ont grandement affectés. Et en devenant chrétien, comme j'ai dit, toutes choses sont devenues nouvelles, mais c'est pas comme s'il y avait un piton reset, puis que tout a changé comme ça. On est reprogrammé, transformé par le Seigneur, mais ça se fait avec le temps, parce que les anciens patterns qu'on avait de penser et de croire, c'est la parole de Dieu qui les transforme. Donc, cette influence de notre chair, du monde, du diable, avec le temps, ça a formé des forteresses. Et donc, c'est ça qu'on va voir. Trois questions fondamentales par rapport aux forteresses. On va en voir deux dans le message d'aujourd'hui. Et la plus importante et la plus longue dans le prochain message, qui ne sera pas la semaine prochaine parce qu'on n'aura pas le repas du Seigneur, puis qui ne sera pas non plus l'autre d'après, puis ni l'autre d'après. Alors, vous prendrez des notes, moi, je vais sûrement réviser de toute façon. Mais ça donne de même, mais c'est ça, vu qu'il y avait trop de matériel à couvrir, j'ai préparé aujourd'hui deux questions. Questions. La troisième, ça va être pour le message suivant. Donc, deux questions fondamentales par rapport aux forteresses. Première question, qu'est-ce qu'une forteresse? Tu sais, je viens de le lire, là. Ça dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est quoi une forteresse? C'est clair ici qu'il est question du domaine des pensées, parce que ça parle dans le verset suivant de raisonnement, de tout autant que s'élève contre la connaissance de Dieu, les pensées qui sont amenées captives à l'obéissance de Christ. OK? Donc, on sait que c'est dans ce domaine-là, mais en plus, c'est dans un contexte d'hostilité. C'est pas comme si, oh, je pense ça, puis ça change pas grand-chose, puis non. C'est que c'est une guerre spirituelle. Puis ces pensées-là de forteresse sont destructrices, détruisent ma vie, détruisent mes relations avec les autres. C'est des choses qui ne sont pas neutres. OK? Donc, c'est quoi une forteresse? C'est dans le domaine des pensées. C'est dans un contexte d'hostilité. D'ailleurs, regardez les mots là, dans les versets. Ça parle d'armes, ça parle de combattre, ça parle de renverser. Ça parle d'amener captif. Voyez-vous comment c'est un langage militaire? Et donc, dans ce contexte-là, les forteresses, parce qu'on définit c'est quoi les forteresses. Les forteresses, c'est des fausses croyances qui sont renforcées là, à plusieurs reprises sur une longue période de temps. Puis au lieu de dire forteresse, ça vous clique pas assez, on peut passer à château fort. Tu sais, ça devient une place fortifiée. Et ce château fort n'est pas neutre, c'est pas juste une place dans le coin de nos pensées, de notre vie, que je suis là, puis tu sais, ça dérange pas trop, quand on y va, on fait un petit tour, puis... Non, non. Ça dit, encore dans nos versets, que ces forteresses, ces raisonnements nous empêchent de connaître Dieu et ses voies. Quand je ne crois pas la bonne chose, quand je pense d'une manière qui n'est pas en harmonie avec la parole de Dieu, je ne peux pas connaître Dieu quel qu'il est. Ça vient entre moi et Dieu. Et ça s'érige sûr et solide, impénétrable dans ma pensée. Je vais vous donner un exemple. Peut-être qu'il a été planté depuis des années, depuis votre enfance peut-être. Cette idée qui est dans votre cœur que je ne sers à rien. Ou cette affaire-là qui est arrivée, vous savez quoi? La majorité des enfants dont les parents se divorcent se disent que c'est de leur faute. La majorité, c'est l'exception, ceux qui ne pensent pas ça. Et là, tu dis, hein, un enfant de 4 ans, il dit ça, c'est de ma faute. C'est pas moi qui invente ça, là. C'est ça. Ils pensent que c'est... C'est-tu vrai? Non, mais c'est une forteresse. C'est dans leur pensée. Puis, OK... Aussi, certains, c'est ça, ont expérimenté des traumatismes qui sont profondément ancrés dans leur cœur. Ça les a marqués. On va voir ça un peu plus tard dans le message. Mais tout ça pour dire que là, l'ennemi arrive, puis il s'en mêle, puis il renchérit en nous accusant, puis en semant plus de mensonges, puis plus de tromperies. C'est vrai que tu ne sers à rien. Puis oui, faut que tu fasses ci, puis ça, pour essayer de tout réparer toi-même, ce qui a été... Tu sais, ça va se compliquer de plus en plus. Le temps est un facteur aggravant parce que ça rajoute des couches de mensonges, de demi-vérités puis de tromperies qui fortifient cette forteresse. Puis comme c'était pas assez, le monde ajoute l'injure à l'insulte en nous bombardant lui aussi de mensonges. De mensonges par rapport à quoi? C'est quoi ça veut dire d'être heureux puis d'être aimé? Puis d'avoir du succès? Là, mais rappelez-vous, on a vu, hein? Ils vont nous raconter des mensonges sur, tu sais, les trois besoins fondamentaux d'être accepté, d'avoir de l'honneur, d'avoir de l'importance, puis d'être en sécurité. Ben, le monde va dire, ah, tu peux avoir ça là, puis ça, de cette façon-ci, cette façon-là, puis c'est tout des mensonges. parce qu'on l'a en Jésus-Christ. Mais voyez-vous comment? Hey, c'est toute une guerre, là. Il y a nous, il y a le diable, puis il y a le monde qui contribue tous, chacun à leur façon, à renforcer ces châteaux forts, ces forteresses. Puis à mesure que le cycle comme ça s'intensifie, ça se met à mener à faire partie de notre ADN spirituel, si vous voulez, de notre façon de penser. Puis là, bien évidemment, ça se traduit dans toutes sortes de comportements. Parce qu'avant de faire quelque chose, on y a pensé. Puis ce qu'on fait, c'est déterminé par la façon qu'on pense, et ce qu'on pense est déterminé par ce qu'on croit. Ce qu'on croit, c'est tellement important. Si je crois que je suis bon à rien, versus si je crois que je suis accepté en Christ, que je suis sécure dans son amour, ça change toute ma vie. Ça va changer ce que je pense, ça va changer comment je vais agir aussi au bout du compte. Ainsi, quand arrivent après ça des occasions de servir le Seigneur, tu sais que le Seigneur fait des choses dans notre vie, dans notre famille, puis là, dans notre travail, dans notre église, dans les différents milieux où est-ce qu'on est, la cassette à part. Tu sais, dans notre façon de penser, la cassette, ah, je peux pas faire ça, je suis incapable, je suis inutile, ça, c'est le genre de choses qu'on s'est dit, mettons, toute notre vie. Ça part. Pourquoi? Parce qu'on a cru depuis tellement longtemps qu'on a fini par croire que c'était ça la vérité. Même si ce n'est pas en harmonie avec la parole de Dieu, on pourrait comme pas s'imaginer que c'est différent. Puis ça revient au point comment c'est important de croire à ce que nous sommes en Jésus-Christ. Rappelez-vous que c'est vraiment le fondement de notre série. Là. Ce qu'on est en Jésus-Christ, c'est déterminé par ce que Dieu a fait. Ce qui me définit, c'est ce que je suis en Jésus-Christ par sa grâce. Et Satan, ma chair, le monde, veut-tu me faire croire quelque chose ailleurs que ce qui est en Jésus-Christ? La réalité de la vie d'un chrétien, c'est ce qu'il est en Jésus-Christ. Toutes les autres, c'est du mensonge, des demi-vérités, puis toutes sortes de tromperies. Comprenez-vous? Fait que là, juste pour en venir, parce que là, on est en train d'essayer de définir forteresse, puis j'ai quand même fait une couple de détours, là. Mais je vais vous donner une définition concise de forteresse. C'est une croyance ou une façon de penser incrustée. Incrusté. Là, Josiah me regarde, puis... incrusté. Ingrained. C'est ça. Incrusté. Donc, une façon de penser incrustée qui est enracinée, qui n'est pas en harmonie ou en accord avec ce que Dieu dit être vrai. Ainsi, tu sais, on a des sentiments, des fois... d'infériorité, d'insécurité, de ne pas être à la hauteur. C'est tout en rapport avec les trois besoins fondamentaux. Et là, ça devient des forteresses dans notre vie. Ces sentiments-là. Sentiments d'infériorité, d'insécurité, de ne pas être à la hauteur. Mais savez-vous quoi? Il n'y a aucun enfant de Dieu. Écoutez bien ce que je dis, là. Il n'y a aucun enfant de Dieu qui est inférieur, insécure ou pas à la hauteur. Est-ce qu'on croit ça? Je vous dis après-midi, là, si vous êtes un enfant de Dieu, vous n'êtes pas inférieur, vous n'avez pas été insécure de rien, puis vous n'avez pas à vous demander si vous êtes à la hauteur, parce que Christ est tout ça pour vous. C'est ça la beauté de notre union avec Christ. Maintenant, voici, c'est là, parce que je parle de pensée depuis tantôt, voici, savez-vous où ça nous trompe? C'est qu'on se sent souvent inférieur, insécure, puis par là, on sent de même. On peut dire, ah ouais, c'était une belle théorie, tout ça, mais moi, là, je me sens vraiment tout croche aujourd'hui. Fait que là, nos sentiments nous jouent des tours. Est-ce que nos sentiments sont vrais? Oui. Vous dites, mais ils sont pas en harmonie avec la parole de Dieu. Ils sont peut-être vrais qu'on les ressent pour de vrai, mais ils sont pas selon ce que Dieu dit être vrai. Et c'est pas nos sentiments qui doivent nous diriger. Je me sens comme ci ou ça. C'est ce que la parole de Dieu déclare sur nous autres. J'ai beau me sentir de même, j'ai beau me sentir tout croche, et tu crois, en Jésus-Christ, là, je suis parfaitement sécure, parfaitement accepté, et j'ai une valeur telle que Christ a versé son propre sang pour moi. Je veux dire, qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Et... Donc, c'est ça, ça peut avoir l'air qu'on est comme ci ou qu'on est comme ça, on se sent comme ça. Et quand c'est renforcé depuis longtemps, je veux dire, on est convaincu que c'est ça la réalité, que c'est ça la vérité, mais si c'est en contradiction avec la parole de Dieu, c'est des fausses croyances qui nous pousse à agir contrairement à la parole de Dieu. Puis là, il y a deux grands domaines là-dedans. Pour finir notre définition, là, quand là, une forteresse, là, c'est soit quelque chose que je sais que je dois faire et que je suis prêt de faire, ou soit quelque chose que je veux pas faire, que je suis pas supposé de faire, puis je suis pas capable de pas faire. Donc, un interdit que on veut vraiment le faire, ou une obligation qu'on n'est pas capable de faire. Ça vous fait-tu penser à quelque chose quand je dis ça? Je vais juste vous lire un petit passage, sûrement vous allez comprendre. Je sais ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je veux. C'est l'expérience Romains 7 du chrétien. C'est de ça qu'on parle. Et comme on a vu ce matin, l'expérience Romains 7 du chrétien, là, elle est véritable. Puis, je veux dire, c'est une crise dans la vie du chrétien, mais ce n'est pas la fin. C'est Dieu qui nous amène à Romains 8. C'est pas la fin du parcours, c'est l'étape vers la délivrance. Mais il faut passer par là. Si on ne sent pas notre misère, si on ne voit pas à quel point on est incapable par nous-mêmes, comment est-ce qu'on va dépendre de l'Esprit du Dieu vivant? Ça ne va pas arriver parce qu'on va encore essayer encore un peu plus par nos propres forces. C'est ça le Romains 7, il y a plein de bonnes intentions. Il prend plaisir à la loi de Dieu sur l'homme intérieur, mais il n'y a pas de ressources. C'est Christ, notre vie, la ressource, ça c'est Romains 8. Et donc, on pourrait résumer ici, c'est quoi une forteresse? C'est tout comment ça ne marche pas dans notre vie qui nous amène au point où est-ce qu'on va dire, comme à la fin de Romains 7, « Misérable que je suis ». C'est quoi le mot après?
Qui me délivrera
de ce corps de mort? Pas c'est quoi la formule? Qui? Ce qui-là, c'est Jésus-Christ, c'est Dieu le Saint-Esprit. Et donc, on a déjà une meilleure compréhension maintenant, c'est quoi une forteresse, comment tout ça, ça fonctionne. Deuxième question fondamentale, comment sont formées les forteresses? On a parlé un peu dans les éléments de définition qu'on vient de considérer, mais j'aimerais être un peu plus précis, parce que ça dit qu'on renverse les forces... 2 Corinthiens 10, 5, « Nous renversons les raisonnements et tout hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Au verset 5, ça nous parle de raisonnement. Vous savez, les développements se sont développés dans notre vie avec différentes sources. C'est ça que je veux dire, comment ils sont formés, à quelle source ils s'abreuvent, dans quel sol ça pousse, ces raisonnements qui deviennent des forteresses. Mais d'abord, le premier endroit où est-ce qu'est formé les forteresses, c'est de par notre environnement. On l'a déjà vu avec des messages sur le monde, là, puis rappelez-vous la vision du monde, worldview, tu sais, là, les lunettes, là, comme les lunettes de machin truc... Le gros méchant, là, pas Bezos, mais l'autre, là. Hein? Zuckerberg? Ouais, Meta, univers. Tu sais, la nouvelle version de Facebook, là. Tu sais, puis là, tu te mets ça dans la face, là, puis... Tu sais, fait qu'on disait que, dans le fond, depuis qu'on est né, c'est comme si on vient avec des lunettes de même. Puis quand on est dans le Seigneur, là, on voit le monde tel qu'il est. Avant, c'était pas la vraie... C'était une illusion. On se faisait dire que ça, c'est ça, puis... Hey, tu vas être heureux, c'est ici, puis c'est tout faux. On a les lunettes. Tu vas être heureux, tout est en Jésus-Christ. Sa volonté est bonne, agréable, parfaite, OK? Donc, notre environnement nous a appris... Puis là, je ne suis pas un behavioriste, je ne suis pas en train de dire « on est des pauvres petits innocents, des petits enfants, une page blanche. » Puis c'est pas ça que je dis, mais notre environnement nous a influencés, OK? Donc, on a appris là, à travers, tu sais, puis là, de différentes cultures, on a des valeurs, des croyances dans lesquelles on vit. Puis je dirais, bon, la culture, mais aussi le foyer dans lequel on grandit, l'école où on va, le travail, bon, puis, tu sais ça, la culture ambiante. Tout ça nous a influencés. Puis pour nous appeler à comprendre ce qu'on appelle une forteresse, le monde appelle ça, savez-vous comment que le monde appelle ça une forteresse? Mécanisme de défense. Vous avez déjà entendu ça, sûrement? Coping mechanism. OK? Mais je vais vous montrer pourquoi c'est important d'utiliser les mots bibliques. Parce que quand on parle de mécanisme de défense, c'est quoi que ça donne comme impression? Je suis une victime. Je suis une pauvre victime, tout le monde m'attaque, il faut que je me défende. Forteresse, ça amène toute l'idée du combat, puis que c'est quelque chose que, parce qu'on comprend aussi le contexte plus large, que Satan, si on y laisse du terrain, il vient s'établir, puis il établit une forteresse, puis bon. Mais La façon de penser, d'agir profondément ancrée qu'on a développée en réponse à nos circonstances, aux personnes qu'on a eues dans notre environnement, puis selon notre personnalité propre, ça l'a façonné comment les forteresses se sont développées dans notre vie. C'est pas nécessairement les choses en tant que telles de l'environnement, mais comment on y a répondu. Mais ces choses-là de notre environnement dans lequel on est né nous ont influencés. Maintenant, un qui est encore plus important, comment sont formées les forteresses? Nos expériences traumatiques. Et là, notez bien là, que c'est pas obligé d'être quelque chose d'extrême, de super gros, parce qu'il y a des affaires que vraiment, des fois, c'est très, très grave, là. Mais des fois, ça pas obligé d'être si grave. Enfin, juste que des fois, on prend expérience traumatique et on pense là, à un accident, quelque chose qui est vraiment extrême. Mais l'idée, c'est la question, là, ce qui fait que c'est traumatique, c'est l'effet que ça a eu sur mon cœur, l'empreinte que ça l'a laissé sur mon cœur. Okay? Pour un, ça l'aurait pas dérangé tant, mais moi, ça m'a vraiment affecté. Okay? Par exemple, une expérience traumatique peut avoir eu un effet à long terme sur nous autres, par exemple un divorce, la mort de quelqu'un de proche, différentes formes d'abus. Okay? Ce genre d'expérience peut faire en sorte que nous nous considérons comme une victime sans force et pas capable de nous défendre. Et là, écoutez bien, fort probablement que c'était vrai au moment de l'expérience. C'est pour ça qu'on se sent de même. Parce qu'on est arrivé, on était sans force. On n'était pas, je veux dire, on était probablement victime de ces choses-là, OK? Donc, même si c'était vrai au moment de l'expérience, écoutez ce que je vais vous dire. En tant qu'enfant de Dieu, ce n'est plus vrai. C'est que là, on se laisse définir par quelque chose qui s'est passé comme si c'était vrai pour le reste de notre vie. C'est là la tromperie. Je vais développer un peu plus. Les expériences traumatiques en tant que telles peuvent produire vraiment là, des grandes forteresses, mais comment? C'est avec le mensonge qu'on a cru en réponse à ça. C'est pas tant que ça l'expérience traumatique, c'est le mensonge que j'ai cru en réponse à ça. Ça m'est arrivé, donc je suis de même. Donc, comprenez-vous? C'est l'équation qu'on fait entre ce qui est arrivé, puis après ça, tous les raisonnements qu'on développe par rapport à ça. Puis, comprenez bien, là, peu importe comment ce qui a pu nous arriver dans le passé, puis je veux rien diminuer, là, il y a des gens qui ont vraiment vécu des choses extrêmement difficiles. Ce qui nous est arrivé, on doit le reconsidérer à la lumière de ce que nous sommes en Jésus-Christ. Tu sais, quelqu'un qui a vécu des choses... quand il était jeune, puis on parle, par exemple, des abus, puis tout ça, c'est plus ce qu'il définit. Si quelqu'un est en Jésus-Christ, ce qu'il définit, c'est plus ça. C'est ce que Dieu a fait de lui, un enfant de Dieu, saint, aimé, accepté, sécure. Comprenez-vous? C'est super important de comprendre, parce que il n'y a pas de chrétiens, peu importe la laideur, la lourdeur de leur pensée, qui sont obligés de rester dans un état de victime. Ou pour le dire autrement, OK, Dieu ne va peut-être pas changer notre passé, mais il peut nous en libérer. C'est ça la question. On ne peut pas changer notre passé, avant que son passé, son passé, mais on peut en être libéré, pas traîner ça comme un boulet de canon pour tout le reste de notre vie. Troisième source des forteresses, comment sont formées les forteresses, c'est quand souvent on a cédé à la tentation dans nos vies. Parce que quand on cède à la tentation, tu sais, au lieu de prendre le moyen d'en sortir, au lieu de regarder à Jésus qui est l'auteur et the author and finisher of our faith, qui est le chef et le consommateur de notre foi, si on prend pas le moyen de sortir, mais ça va aboutir non seulement à des forteresses dans notre pensée, mais on va agir selon ça. On croit. On agit selon ce qu'on croit. Et là, quand ça se répète, puis ça se répète, puis après, ça devient des habitudes, puis ces habitudes-là, à la longue, ça devient des forteresses. Puis là, c'est là qu'on dit, j'essaie d'arrêter, mais je ne suis pas capable. J'essaie de le faire, de commencer, mais je ne suis pas capable. OK? Est-ce que je suis dans un terrain que quelqu'un est familier avec ça, comprenez-vous? Est-ce que c'est l'expérience de tous ici? On a tous des forteresses. Ou est-ce qu'on arrive à ce point-là? J'essaye, mais je ne suis pas capable. Ou je ne devrais pas le faire, mais je ne suis pas plus capable. Et c'est pour ça que Satan nous tente toujours avec les mêmes péchés. Parce qu'il connaît nos faiblesses. Parce qu'il veut aussi ainsi prendre du terrain pour y former des forteresses dans notre vie, puis nous faire tourner en rond, downward spiral, nous faire tourner en rond comme ça, puis de plus en plus vers le bas, pour qu'on perde espoir. Quand on perd espoir, tu sais, l'espoir, c'est la foi. L'espoir, c'est croire que Dieu est encore là, c'est croire que Dieu ne nous a pas abandonnés. Mais quand on perd ça, là, on est vraiment cuit, là. Et je l'ai dit, Dieu a toujours le moyen de sortir. Christ est le moyen de s'en sortir. Il est là, il ne nous abandonne pas. Mais c'est ça, si on a cédé tellement longtemps à la tentation, maintenant on peut finir par se demander coudonc. Dieu répond-tu aux prières? Moi, je l'ai entendu souvent. Hey, j'ai tellement l'impression, on dirait que Dieu ne m'entend pas. On dirait que. Puis, c'est pas plus compliqué que l'illustration suivante. Ici, on vit dans un coin avec des fermes et tout ça. Puis. Bon, il y a des temps de l'année que c'est plus dur parce que là, il épandent dans les champs, OK? Puis là, des fois, ça sent pas tout le temps bon, puis tout ça, mais nos fameux fermiers qu'on est content d'avoir parce que c'est avec eux autres qu'on peut manger des bons légumes, puis tout ça, puis qu'on a nos produits qui viennent d'ici. Mais si je prends mon beau gros tracteur de même, puis que je m'en vais dans le champ, puis que je passe tout le temps par la même place, tout le temps, qu'est-ce qui va arriver? Ça va créer ce qu'on appelle des ornières. Puis là, ça fait ça aussi sur l'autoroute. Tu sais, avec les gros, les semi-remorques, c'est lourd, ça fait amener des ornières dans la route. Ornières.
Des traces.
Non, j'essaie de penser. Vous savez, c'est quoi des ornières, les gars? Des.
Ruts.
C'est ça. Ben, si dans un champ, vu que c'est tellement mou, puis un tracteur, c'est tellement lourd, si tu passes tout le temps à la même place, savez-vous ce qui va arriver? Si je passe tellement à la même place, en même temps, je vais pouvoir mon tracteur avance, je lâche le volant, puis ça avance pareil. Puis, j'ai pas osé toucher à rien. C'est important, par exemple, qu'il aille dans la bonne direction. Ben, les forteresses, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, t'as tellement passé par là, le problème, c'est qu'elle te mène pas dans la bonne direction. Hey, t'es là, puis t'as même plus rien à faire, puis tu n'en vas pas dans la bonne direction. C'est ça, une forteresse. Puis si tu veux essayer de tourner, puis sortir, t'as un méchant effort à faire, puis tout ça. Puis c'est là qu'on dit, ben, je suis pas capable. Non, parce que ça prend la grâce de Dieu. C'est Christ en moi. C'est pas moi qui est capable. C'est Christ en moi. Donc, les forteresses, c'est des ornières qui nous mènent dans la mauvaise direction. Si on prend en harmonie avec la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, ça ne m'amène pas à la bonne direction. Donc, si on ne recherche pas intentionnellement à changer de direction, on va finir où est-ce qu'on ne voudrait pas aller. Et c'est ça tout le problème des forteresses. Elles nous amènent à agir selon le mensonge, selon des fausses informations, des fausses croyances, puis elle nous amène, Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ben, les forteresses, leur motto, c'est vous connaîtrez le mensonge et le mensonge va vous rendre esclave. Vous allez croire au mensonge, puis le mensonge va vous rendre esclave. Et comment ça arrive? Nos fameuses émotions, on a parlé aussi des émotions. Nos émotions nous poussent à faire, à penser, à agir en contraire à la réalité. Autrement dit, je me sens vraiment rejeté. Vous savez quoi? Probablement que vous avez été rejeté dans votre vie, peut-être que vous l'êtes encore. Mais je vous pose la question, si vous êtes un enfant de Dieu, êtes-vous rejeté de Dieu? Est-ce que c'est la confirmation que vous êtes rejeté de Dieu? Non. Ça, c'est la vérité inchangeable. Ça, c'est le roc solide de la parole de Dieu. Vous n'êtes pas rejeté par Dieu. Ouais, mais je me sens incapable de changer. Qu'est-ce que la Bible nous dit à ce sujet-là? Vous irez le voir. 2 Corinthiens 3. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons capables de nous-mêmes de concevoir quelque chose venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, nous vient de Dieu. Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc même si je me sens incapable, si je me sens comme un Romain 7, ben la réalité, c'est que je puis tout par Christ qui me fortifie, puis sa grâce est suffisante. Quand Dieu m'amène au bout, c'est parce qu'il veut lui prendre. les choses en main, que je les laisse dans ses mains pour que lui agisse. Puis aussi, la Bible nous dit, c'est clair, dans 2 Pierre au chapitre 1, ça dit que Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie puis à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa vertu. Donc, comment je fais pour m'en sortir? Apprends à connaître celui qui est ta liberté. Apprends à connaître à celui qui dit toujours la vérité, celui qui ne trompe pas. C'est pour ça que Paul dit, pour moi, là, je recherche une chose, là, c'est connaître Christ. Puis il dit, je fais une chose, là, puis je cours vers le but. Oubliant ce qui est derrière, je porte les regards vers ce qui est en avant, puis je cours vers la vocation céleste en Jésus-Christ. Et donc, on a, j'espère, une meilleure compréhension de c'est quoi les forteresses, comment elles se forment, et dans le prochain message, on va voir comment les renverser, les démolir, les mettre à terre. Amen! Avez-vous des questions?
Les anges de Jésus, ils viennent nous chercher à aller au ciel.
Amen! Y a-t-il quelqu'un d'autre qui a hâte? Ah, on a tout hâte! Puis toi, tu as une question, Mylène?
Oui. Ben, en fait, c'est pas une question, c'est un constat de qu'est-ce qu'on... Comment que nous avons été aveuglés par... On sert à rien, mais dans la loi, on était dans ce cercle-là. Quand on était avant, dans la loi, on a
fait
nos enfants comme ça.
Ouais. Oui, parce que la loi nous dit que ça marche jamais, puis on l'a jamais, puis tout ça. Mais la grâce en Jésus-Christ, lui, Christ en nous, tu sais, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vient en moi. C'est vrai. Oui, Guylaine.
Moi aussi, c'est partager quelque chose. Je suis sortie avec mon frère vendredi soir, on est allé au cinéma tous les deux.